réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Nous sommes le jeudi 30 juin 2016, J-2 avant les vacances. En tout cas, je suis tout aussi content de vous retrouver ce matin. Dans un instant, Laurent Nunez sera avec moi, mon partenaire Laurent Nunez de toute cette année. Il nous fera le bilan des grandes expositions de l'année, une manière aussi de vous rattraper si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, de tout visiter. On parlera d'expositions en deuxième partie. 36, les artistes fêtent les 80 ans des congés payés. Alors, il y a 36 artistes. Nous, notre invité est Barthélémy Togio. On le retrouve dans un petit quart d'heure sur France Culture. Et donc, comme je vous disais, toute cette semaine, les bilans de l'année culturelle en première partie de l'émission. Aujourd'hui, on va parler des expositions de cette année avec l'ami Laurent Nunez. Bonjour.
Bonjour Tufik.
Alors, d'abord, vous êtes allé voir une expo avant de commencer le bilan de l'année. Laquelle?
Oui, je suis allé voir une expo à Genève, l'expo Frankenstein, créer des ténèbres. Voilà, à la Fondation Martin Bodmer, une très belle expo, très bizarre, très gothique, le terme n'est pas péjoratif, et qui raconte quelque chose de très drôle, et pour ça, vous savez, je vais d'abord vous parler de la météo.
Oh non, pas c'est... cette année.
Et justement, c'était ce qu'on avait appelé une année sans été, de la pluie tout le temps, juin, juillet, août, et le soir, disent les témoins, tout le monde se réunissait autour d'un feu de bois ronflant. C'était même, dit l'expo, la nuit en plein jour. Pas de soleil dans un ciel bouché. Il faisait si moche, il faisait d'ailleurs si noir, que Lord Byron décida d'écrire un poème intitulé Darkness, que j'ai essayé de vous traduire et que je vous propose de lire.
J'ai fait un rêve. Et ce n'était pas qu'un rêve. Le soleil éclatant était mort, et les étoiles erraient toutes noires dans l'espace éternel, sans halo, ni trajectoire. Et la terre glacée flotter sans couleur et sans but, et pas même de clair de lune.
Oh. Oui, alors la poésie exagère peut-être, hein, mais les relevés météorologiques, eux, ne mentent pas. Je les ai consultés, c'était 9 degrés le matin, 14 degrés l'après-midi, on était pourtant en juillet 1816,
à Genève.
Voilà. Et l'affaire est bien connue hein, désormais, mais les contemporains l'ignoraient. Une couche de poussière gigantesque recouvrait en fait tout l'hémisphère nord. Oui, les désastreuses conditions météorologiques de l'été 1816 sont la conséquence, un peu différée dans le temps et dans l'espace, de l'éruption d'un volcan indonésien, le Tambora, à l'est de Java. Il s'agit même, disent les vulcanologues, de la plus forte éruption volcanique connue dans l'histoire. Ça éclata dans la nuit du 10 avril 1815. Les explosions furent audibles, attention, dans un rayon de 1400 km, c'est-à-dire la distance Paris-Séville.
Wow.
Le ciel fut plongé dans une obscurité complète pendant 2 jours. Il pleuvait du soufre et des cendres jusqu'au 23 août. Beaucoup de villes d'ailleurs furent noyées par des tsunamis ravageurs. Et quand tout fut calmé, on s'aperçut que quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de ciel. La couche de poussière était telle qu'elle pénétra la stratosphère. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. À Londres, Turner profita de ces étranges couchers de soleil rouge, jaune, incandescent pour peindre 2 de ses plus beaux tableaux. Didon bâtisse en Carthage en 1815 et le déclin de l'Empire carthaginois en 1817. À Genève, justement, cet été pourri hein, de 1816, toute une bande d'amis s'était réunie dans une belle villa, la Villa Diodati. Il y avait Lord Byron, dont on vient de citer le poème, et il y avait son médecin personnel, le brillant Polidori. Il y avait surtout les époux Shelley, Percy et Mary. On voulait se baigner, profiter de la nature, Mais l'été se révèle trop pluvieux et peu clément, et les voici tous obligés de rester dans la maison, à regarder derrière les vitres le monde qui prend l'eau. Et c'est à ce moment-là, mi-juin 1816, que Lord Byron propose à ses amis pleins d'ennuis un concours d'écriture, le thème « Un récit de fantôme ». Et les après-midi passent, et l'encre coule sur le papier comme la pluie sur les murs. Vous vous rendez compte à quoi tient le génie ? Parce qu'un volcan s'est mis en colère, parce qu'il pleut sans cesse et que tout le monde ronchonne, deux chefs-d'œuvre vont surgir de ce déluge. Polidori rédige, lui, une simple nouvelle, s'appelle « Le vampire ». Il n'invente pas le thème du vampire à proprement parler, mais son texte connut un tel succès qu'il popularisa carrément ce monstre affamé de sang, tant que lorsque Bram Stoker chercha un sujet de roman, presque 80 ans plus tard, il prit dans sa bibliothèque cette petite nouvelle et l'augmenta jusqu'à écrire Dracula. C'est donc plus la théorie de l'aile du papillon, vraiment là, on découvre la théorie de l'aile de la chauve-souris.
Il faut vraiment qu'il y ait un temps pourri pour qu'il y ait des chefs-d'œuvre. Et l'autre chef-d'œuvre d'ailleurs, Laurent Nulens, c'est quoi?
Et l'autre chef-d'œuvre, c'est encore plus incroyable. Il fut écrit par une jeune femme de 18 ans qui venait à peine de se marier et qui s'appelait Mary Shelley. C'est à elle, en effet, qu'on doit Frankenstein. Et c'est bien de le rappeler, vous savez, à un moment où on est en train d'ausculter les programmes de Bach, elle, et on s'aperçoit qu'aucune femme écrivain n'est programmée depuis très longtemps. Eh bien, il y a toujours Mary Shelley. C'est elle qu'on doit vraiment Frankenstein, c'est-à-dire c'est elle qui a inventé carrément ce mythe. Le mythe du savant fou et de sa création, parce que je vous rappelle que Frankenstein, ce n'est pas le nom du monstre, hein, c'est le nom du savant, et que le roman de Shelley, d'ailleurs, est sous-titré « Le Prométhée moderne ». La jeune fille mit en fait un an à écrire son livre, encouragée par son époux et par ses amis, et par le ciel lugubre qui, je vous le rappelle, jusqu'en 1818, ne permettait pas de faire des choses plus intéressantes. Quelle chance pour nous qu'il plût autant cet été-là. Et c'est le bicentenaire de cette pluie fertile, créatrice, artistique que nous fêtons cette année, 1816-2016, qui vous dit qu'un grand écrivain n'a pas profité des dernières pluies de juin pour écrire un nouveau chef-d'œuvre?
Vous peut-être, Laurent Nunez.
J'irai pas jusque-là.
Mais en ce moment, c'est les festivités autour de Frankenstein.
Oui, des festivités qui ont commencé il y a plusieurs mois, lorsque Gallimard a décidé en fait de publier le volume Pléiade, consacré au roman gothique. Alors, outre le chef-d'œuvre de Shelley, on y trouvait également un livre que j'aime beaucoup, Le Château d'Otrante, de Walpole, qu'on considère comme le premier roman gothique, et qui était le roman préféré d'ailleurs de Paul-Éluard. On y trouve surtout un autre livre plus sulfureux, Le Moine, un gros roman de Lewis, plein de viols, de parricides, de magie noire, qui lui était le roman préféré de Sade. Alors, c'est moins étonnant peut-être. Edo Antonin Artaud a donné une traduction très belle, très personnelle, qu'on peut lire en folio Gallimard. Des puristes, c'est-à-dire des gens sans trop de goût, se sont élevés pourtant, vous savez, lorsque Frankenstein a été disponible dans cette vénérable collection de la Pléiade, sous prétexte que ce n'était pas de la littérature, puisque c'était en fait du fantastique. D'accord, mais ils oubliaient quelque chose. C'est que Mary Shelley n'avait pas fait que raconter l'histoire d'un monstre. Elle avait créé ce monstre, narrativement, par des multiples mises en abîme de son livre, par des retours en arrière, par des chapitres qui ne sont que des lettres, et d'autres chapitres qui ne sont que des purs récits. Son livre, en fait, n'est pas une structure continue. Il est fait de morceaux rapiécés, qui ne sont pas faits pour aller forcément ensemble. C'est pas grave, puisqu'elle les a cousus avec art, et que tout se tient depuis deux siècles. Voilà pourquoi ce roman gothique est un roman littéraire qu'il faut relire en Pléiade ou ailleurs.
Et moi qui avais prévu Jules Verne, je crois que vous me donnez envie de pousser jusqu'à Frankenstein après Jules Verne. Mais est-ce à dire, cher Laurent Nunez, que pour tout savoir sur Frankenstein, sur la genèse du livre, comme sur sa signification, il faut réellement se rendre à Genève?
Non, pas forcément. C'est pour ça que Gallimard, en collaboration avec la Fondation Martin Bodmer, a publié un beau livre d'art. L'exposition a lieu jusqu'au 9 octobre, mais le livre sera là très longtemps en librairie. Je rappelle son nom, c'est Frankenstein, créé des ténèbres. Alors on y découvrira de nombreux paysages. Parce que vous savez, ce roman est aussi un roman sur la nature, sur les grands espaces. Victor, le savant, et le monstre sont dans une course-poursuite, notamment dans les Alpes et à travers la mer de glace. C'est vraiment magnifique. On y découvre surtout l'écriture fine et, c'est assez incroyable, sans trop de ratures, sans hésitation de Mary Shelley, parce que on découvre le manuscrit autographe de ce livre, et puis même, quelque chose de plus précis, l'édition originale corrigée et annotée de Mary Shelley, toujours prête, en fait, à modeler davantage sa création. on y découvre aussi les premières illustrations du monstre, et ça, c'est passionnant. Parce que comment représenter ce qu'un seul cerveau a créé et décrit ? Et qu'est-ce qu'un monstre, hein, pour des gens qui n'en ont jamais vu ? Pour ceux qui ne peuvent pas aller à Genève, il faut vraiment se procurer ce très beau volume.
De Gallimard, édité par Gallimard. Vous avez de la chance, Laurent Nunez, parce que moi, quand j'ai... vous avez eu une bonne pioche, je veux dire, parce que moi, en librairie, je suis tombé plutôt sur un mauvais livre, un mauvais essai autour de Frankenstein. Vous voyez de quoi je parle ?
Oui, bien sûr. Mais
c'est ah bah que... vous l'avez !
Ah bah voilà, il est là.
C'est que, évidemment... Ne me dites pas que c'est bon.
Non, ah non, bah non, d'accord. Non, c'est pas mon livre préféré. Et en effet, un beau livre peut engendrer un mauvais essai. Ça, c'est sûr, cela arrive, puisque, comme le dit Hugo dans un vers magnifique, l'ombre est noire toujours, même tombant des cygnes. Le mauvais livre sur Frankenstein, donc, c'est celui, pour moi, de la psychanalyste Monette Vaquin. Ça vient de paraître chez Belin, et ça s'intitule « Frankenstein aujourd'hui, égarement de la science moderne ».
Voilà, c'est un très beau titre. On a envie d'acheter ce livre, mais après, on se pose des questions.
Oui, alors,
est-ce qu'on s'est posé les mêmes questions, d'ailleurs?
Égarement de la science moderne, il n'y a rien de nouveau. Hein, rien de bien neuf depuis Rabelais, et son science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On est un peu gêné pour Vaquin, qui se met dans ce livre carrément à tutoyer Marie Shelley, à l'apostropher même, pour lui montrer notre monde où les savants sont évidemment fous et où, je refuse qu'on pense que je sois l'auteur de telle phrase, la différence des sexes est abrogée par décret psychosociologique, ou alors, par le clonage, la science va avoir raison de la filiation, Marie. Ou alors, elle explique encore à Marie Shelley, où le fils dans notre société n'a plus de père et n'a donc plus aucun moyen de le tuer. Bref, vous connaissez la chanson, hein, le haro réac sur les théories du genre, à mettre au pluriel, hein, je vous rappelle, la théorie du genre, ça n'existe pas. Haro encore sur la castration des pères, sur l'enfant qui a le droit tout de même à une papa ou une maman. Pauvre Marie Shelley, si progressiste, qui ne devait pas s'attendre à ce qu'on l'enrôle dans ce genre de combat. Ce qui est triste surtout, c'est que Monette Vaquin s'attaque, toujours avec Frankenstein, à la nouvelle bête noire de certains, qui s'appelle le transhumanisme. Alors retenez bien ce mot, parce qu'à mon avis, vous avez beaucoup l'entendre lors des campagnes présidentielles.
C'est-à-dire quoi ?
Alors le transhumanisme, c'est lorsqu'on cherche à augmenter les caractéristiques mentales ou physiques de l'être humain. Victor Frankenstein, on peut dire évidemment, était transhumaniste, même si le mot a été créé en 1957, parce qu'il essaye par sa création de dépasser la finitude de l'homme. Il essaye de vaincre la mort. Monette Vaquin, elle est contre cela, contre toutes les techniques transhumaniste, et elle le dit haut et fort en 320 pages, très bien, mais il faudrait juste lui rappeler cela, nous sommes tous transhumanistes, depuis que nous vaccinons nos enfants, depuis que nous portons des lunettes et des lentilles d'ailleurs, depuis que nous chaussons nos skis lors des vacances d'hiver. Nous sommes même dans le transhumanisme, non seulement quand nous transplantons des pacemakers pour des gens qui veulent vivre, mais aussi lorsque nos enfants prennent du magnésium pour réviser leur bac. Et un vieillard qui marche avec une canne dans la rue, désolé, c'est un dangereux transhumaniste. C'est cela peut-être que devrait relire Frankenstein, hein, mais vraiment lentement, sérieusement. Il faudrait que les gens découvrent que ce livre est un livre sur un monstre qui n'est pas un monstre. C'est un monstre qui est dans une demande d'amour incessante, incomprise, et que la monstruosité dans le roman est toujours dans le regard des autres, qui ne supportent pas cet être trop différent d'eux. D'ailleurs, vous savez l'étymologie de monstre, ce que c'est ? Le monstre, c'est celui que les autres montrent du doigt. Voilà, c'est cela aussi Frankenstein. Hein. Un conte moderne sur les dangers de la xénophobie, on vous aura prévenu.
Voilà, donc l'expo à Genève, Frankenstein crée des ténèbres. Diriez-vous que c'est une des meilleures expos de l'année ? Cher Laurent Nunez, on passe au bilan.
Oui, bien sûr. Alors oui, c'est une très très belle expo à mettre en lien, à mon avis, avec la belle expo qu'il y avait eu sur la prostitution.
Ouais, les maisons closes. Là.
Sur les maisons closes au musée d'Orsay, qui était d'une inventivité incroyable. C'est-à-dire aucun débordement grotesque ou dérangeant. C'était très beau. Ça expliquait vraiment une société où le sexe n'était plus considéré comme une chose très pernicieuse. Ça, c'est plutôt comme une sorte d'éducation. C'est un peu bizarre de dire ça de nos jours, mais il faut vraiment aller, en tout cas, retrouver le catalogue. Autre belle expo, c'était évidemment le Made in Algeria.
Au MUCEM, à Marseille.
Au MUCEM, qui que je trouve très belle parce que moi je déteste les cartographies et que ça m'a donné envie de regarder des cartes, c'est comment une nation se construit à partir des cartes de ceux qui l'ont colonisé.
Ouais, et ce qu'on peut faire dire aux cartes aussi.
Oui, hein. Ouais, incroyable. C'est complètement, voilà.
Autre expo?
Une autre expo, peut-être, oui, c'était celle qui a eu à Metz, que j'ai trouvé très très belle au Pompidou, sur la télépathie. Formidable expo sur l'art de représenter les pensées à partir du mesmérisme, à partir du magnétisme, etc., jusqu'au surréaliste. Et notamment, j'aimais beaucoup parce que la scénographie faisait que l'expo se terminait par différents tests et essais que tout le monde pouvait faire, adultes et enfants. Et enfin, je trouve que ça enlève le côté, l'extrême passivité du spectateur.
Et enfin, pour terminer, on se retrouve à la rentrée. Je vais vous souhaiter de très bonnes vacances, cher Laurent Nunez. Mais qu'est-ce qui nous attend à la rentrée? Alors, on va changer de registre, hein, pas d'expo. On va parler des livres, vous qui mettez tant les livres. Je rappelle que vous dirigez les pages culturelles de Marianne. Allez.
Oui, alors la rentrée, pour nous, en effet, on est déjà en plein dedans.
Ouais, vous avez commencé à recevoir tous les livres, pour les lire avant tout le monde.
Alors... On a commencé à recevoir, j'ai commencé à lire, par exemple, un très bon Céline Minard. Chez Rivage, voilà, qui a décidé de quitter la société pour découvrir ce qu'on fait quand on vit tout seul. Voilà, c'est quoi la vie quand il y a plus de but dans la vie.
Alors tout le monde parle d'un embouteillage en septembre. Pourquoi?
Septembre,
c'est fin août. Ouais.
Voilà, c'est ça. Voilà, la rentrée commence le 18. Le 18 août, voilà. C'est presque demain. En effet, il risque d'avoir un grand embouteillage parce que la plupart des romanciers ont refusé de publier leurs livres en janvier.
Janvier 2017. Pourquoi, pardon?
En janvier 2017, parce que c'est un très mauvais timing puisque c'est l'année des présidentielles. Or, c'est prouvé, les gens n'achètent pas de romans lors des présidentielles. Ils sont omnibulés par l'information. Ça s'est vérifié de nombreuses années, donc les romanciers ont bien tenu.
Moi, c'est exactement le contraire. Quand ça commence à parler politique, j'ai envie de lire de la fiction. Mais si vous le dites, c'est que vous avez des vraies études.
Oui, donc c'est pour ça. La rentrée de septembre sera très belle. Celle de janvier risque d'être assez mince.
Merci Laurent Nunez. Vous pouvez réécouter cette chronique en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page d'Un autre jour est possible. Et bel été à vous.
Merci Tefik, bel été.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Bonjour Barthélémy Togio.
Bonjour.
Enfin, je vous reçois depuis le temps que je rêvais de vous recevoir. Il y a beaucoup de gens dans mon équipe qui suivent votre travail. Hommage d'ailleurs à Anaïs Isbert, qui est avec moi cette année, qui suivent votre travail, qui espère que vous allez décrocher cette année le prix Marcel Duchamp. Et en tout cas, en attendant, on peut vous voir avec d'autres artistes, 36 artistes qui ont été réunis pour une exposition fêtant les congés payés, puisque c'est une date anniversaire, 80 ans après. Et vous faites partie de ces artistes retenus. Alors, comment vous avez travaillé autour de cette thématique ?
Je me suis inspiré d'une série de plaques de gravures sur bois que j'ai eu à produire pour une exposition à la Galerie Lelong. L'exposition s'appelait « A Life in a Box ». Et donc, j'ai utilisé des plaques, des bois gravés, et je les ai... restitué dans une autre production pour produire cette grande toile qui comporte six plaques gravées. Et à chaque fois, il y a des tasseaux qui condamnent les plaques. En fait, c'est des séquences de vie qui sont emprisonnées comme dans des boîtes pour un peu parler de la situation dans laquelle aujourd'hui nos contemporains vivent avec ces attentats, avec cette situation de peur, et nous vivons dans une vie où les êtres humains cherchent de plus en plus à se recroqueviller devant l'horreur. Et donc j'ai voulu juste montrer cette situation par ce bois gravé.
Et donc six représentations, tout ça sur bâche, mais ça c'est l'idée même de l'exposition, de demander aux artistes d'utiliser une bâche, hein.
C'est un support que j'apprécie et ça nous a été donné. Et moi, je me suis trouvé confortable là-dessus. Et ça fait partie d'une pratique artistique, la toile, que j'aime bien peindre sur la toile ou sur du papier. Donc, j'ai pas eu de problème, de difficulté. Et quant au support, et le résultat est plutôt beau, graphiquement et esthétiquement aussi. J'aime bien.
Alors, cette exposition, pour célébrer les 80 ans des congés payés, née en 1936 avec 36 artistes, c'est une exposition itinérante. Moi, je l'ai vue la semaine dernière à Paris, à l'Assemblée nationale. Elle est actuellement à La Rochelle et elle va faire un peu le tour de France avant d'arriver à la Courneuvre, c'est-à-dire le 10 septembre, pendant la fête de l'humanité. Notre autre invité ce matin est Teddy Tibi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la revue Art Absolument, et vous êtes le directeur général de cette exposition. Alors, comment est née cette idée de demander à 36 artistes d'utiliser ce support pour rendre hommage et marquer cet anniversaire des congés payés ?
Alors, l'initiative était une rencontre entre Éric de Fickelmont, qui est le président de la compagnie internationale André Trigano, et la revue Art Absolument. Et nous avons décidé de créer, pour commémorer le 20 juin 1936, les congés payés, de demander donc à 36 artistes différents, multiples, de créer cette exposition itinérante qui a commencé, comme vous l'avez dit, dans un lieu symbolique, l'Assemblée nationale.
Parmi ces 36 artistes, on peut en citer quelques-uns?
Oui, nous avons, hormis notre ami Barthélémy Togo, nous avons Ernest Pignon-Ernest, nous avons un artiste qui s'appelle Rachid Koraïchi, nous avons Marc Bruce, Claude Diala participe à cette expo, Yann Voss, des grands noms, des noms reconnus et puis des artistes à découvrir, comme Pierre-Yves Hervy Vaillant, comme Jerk 45, qui est un artiste qui fait du graffiti. Donc on a essayé de trouver des artistes divers et variés avec des...
Et la commande, c'était quoi? C'était de travailler sur les congés payés?
Oui, absolument.
Donc un sujet et puis un support surtout.
Voilà, donc le support, c'était une tente de toile recyclée, donc de la compagnie internationale André Trigano, soit en PVC, soit en toile. Elles font toutes la même taille, elles sont de 2 mètres par 1,60 m, et la thématique des 80 ans des congés payés. Et on est très heureux parce que on peut dire que les artistes ont tous joué le jeu et ont tous rendu leur œuvre à l'heure dite.
Alors c'est quoi l'art militant, l'art qui s'engage pour une cause? Je vous pose cette question, Barthélémy Togo, parce que si je vous ai choisi parmi les invités, c'est parce que vous avez exploré des thèmes d'actualité, l'exil, par exemple, les nouvelles vagues d'immigration où les gens prennent à leur risque et péril des embarcations de fortune pour traverser mer et océan et essayer de trouver un sens à leur vie, ou du moins une chance pour pouvoir vivre et oublier la misère, oublier les guerres. Tout cela, vous l'avez traité. Alors comment on traite de ce genre de thématique de l'actualité? Quelle est la bonne distance pour un artiste pour en rendre compte ou pour prendre position?
Je crois que il faut d'abord être passionné et aussi il faut être sensible. Sensible pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de lire et d'écouter surtout Albert Camus lors de la remise du prix Nobel de la littérature en 1957 ou 57 à Stockholm, où il disait dans son allocution que l'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre de gens, d'hommes, en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Et j'ai conclu ce message, cette citation, comme quoi l'artiste a un rôle dans la société. Et depuis ce jour-là, j'étais encore étudiant, dans mes débuts à Abidjan, j'ai décidé d'avoir un travail artistique qui a une dimension sociale, qui va vers les gens. Et donc c'est pour cela que quand on est sensible aux ressentis humains, quand on est sensible aux difficultés que les gens traversent, on a très vite les capacités à produire un travail qui va dans ce domaine qui compatit.
Voilà. Vous avez utilisé le terme de compassion, qui compatit. Est-ce que pour vous, Barthélemy Tohio, il faudrait que votre art soit compris par un maximum de personnes, vous qui travaillez entre Paris et Banjul au Cameroun, par exemple, est-ce que pour vous, l'idée, c'est d'arriver à faire passer le message avant toute chose? Ou est-ce que l'artiste peut prendre toute la liberté qu'il faut pour créer?
J'ai cette liberté, mais je ne fais pas un travail pour que les gens comprennent mon travail ou bien pour me faire comprendre. Je produis un art d'abord parce que j'ai une sensation par rapport aux événements que nous courons aujourd'hui au regard de ce qui se passe dans notre vie. Quand je regarde des attentats ici et là ou des discriminations ou des échanges nord-sud qui sont déséquilibrés, je me dis que je dois parler de cela. Quand vous regardez dans l'histoire de l'art, ce qui s'est passé à Florence, la peste qui sévissait, les artistes ont parlé de cette période, de ces catastrophes, de ces désastres, et que aujourd'hui, moi je vis avec l'ère du sida, l'ère d'Ebola, je ne peux pas rester insensible. Et je combine tout cela parce que ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie, la violence fait partie de la vie, la guerre fait partie de la vie. Et j'ai la chance que j'ai réussi, de par ma formation artistique, à combiner tout cela pour célébrer la vie dans mes œuvres. Mmh. Et c'est un résultat qui donne du coup de poing.
Allez, pour terminer, vous avez de très belles bagues, Barthélemy Tohio. Elles m'ont impressionné depuis le début de l'interview, mais il n'y a que des têtes de mort. Qu'est-ce qu'elles représentent, vos bagues ?
Mais il y a une bague qui a été commandée par une galeriste à Paris qui fait des commandes aux artistes,
ouais,
qui ont une pratique artistique qu'on peut décliner vers la production de la joaillerie. Donc je me suis inspiré d'un de mes tampons qu'on a vu à la Biennale de Venise pour créer un tampon avec un slogan « Carpe Diem ».
Et voilà. Pour les deux autres,
et
grosses
les deux
bagues.
Autres, c'est une succession de têtes de mort, des vanités. Et je crois à la vie comme je crois à la mort. Et le fait de porter ces bagues, j'ai l'impression de communier entre mon esprit, ma pensée et moi-même.
Merci d'être passé ce matin, Barthélemy Tohio. Merci aussi à Tidi Tibi. Vous n'avez pas de bague, pas une alliance.
Non, pas de bague, pas d'alliance.
Mais en tout cas, merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
C'était un autre jour est possible à retrouver sur franceculture.fr. Une émission que vous pouvez réécouter soit en passant par l'écoute en ligne, soit par le podcast, préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Dutard avec aujourd'hui Julien Doumenc à la technique. Demain, ça sera la dernière émission de la saison et je serai avec le grand Manu Larsonnet. Bonne matinée, au revoir.